Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Matthieu chapitre 7. Le verset 7 et le verset 8. Demandez. Oh, et le culte des enfants. Les enfants sont priés de suivre les monitrices. Merci. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Parole du Seigneur. Notre sujet ce matin, c'est persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Le premier évangile écrit par Matthieu était écrit premièrement pour montrer aux Juifs incrédules que Jésus était bel et bien le Messie attendu. Et deuxièmement, pour encourager les croyants juifs. Le livre de Matthieu accorde beaucoup d'importance au ministère d'enseignement de Jésus. Des quatre évangiles, c'est Matthieu qui comporte les plus grands blocs de discours messianiques. Aucun autre évangile ne renferme autant d'enseignements de Jésus. Les chapitres 5 à 7, communément appelés le sermon sur la montagne, dans le chapitre 7, versets 1 à 11, Jésus a fait une injonction à tous ceux qui l'écoutent de mettre en pratique son sermon. C'est un ordre divin. Et si vous voulez, quand vous arrivez chez vous, prenez du temps pour lire Matthieu 5. Matthieu 5 à 7. Hein? Pour voir ce qu'il y a là-dedans pour notre vie. Et le point central de notre prédication est la persévérance dans la prière. La première question, c'est qui nous devons prier? Bien entendu, la réponse est déjà tombée, c'est Dieu. Il faut prier Dieu, puisque prier, c'est parler avec Dieu. Mais pour parler avec Dieu, il y a des éléments qui concernent la prière. Ces éléments, et premièrement, c'est la louange. Il faut louer Dieu. Exalter, glorifier, célébrer notre Seigneur. Faire éloge pour lui, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est. Rendre hommage à sa majesté suprême. Et il faut rendre aussi l'action des grâces. Il faut montrer notre gratitude. Dieu constate qu'il y a aujourd'hui trop de chrétiens ingrats qui ont vite oublié ce qu'il a fait pour eux, pour nous. Nous devons montrer notre gratitude nos remerciements, notre reconnaissance et notre amour pour Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, un verset que tout le monde connaît. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. C'est une reconnaissance. Et Paul continue dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec nos péchés. C'est la confession, il faut confesser nos péchés. Notre Dieu, il est trois fois saint. Et puisqu'il est trois fois saint, avant de nous présenter devant lui, nous devons nous déshabiller de l'enveloppe du péché. Dieu est saint, il faut que celui qui se présente devant lui soit saint aussi. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il a déjà fait provision. Et l'intercession aussi, c'est un élément de la prière. Priez pour nos frères et sœurs malades qui sont persécutés. Priez pour ceux qui confrontent à des problèmes socio-économiques, familiaux, spirituels. Le vendredi soir ici, c'est ce que nous faisons. Nous prions pour les frères et sœurs qui sont dehors, pour les frères et sœurs qui sont persécutés. Nous prions pour le pays, nous prions pour que nous ayons toujours cette liberté de réunir à l'heure voulue pour adorer Dieu. Et Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, il avait prié pour que l'Église soit un, comme lui et son Père soient un. Il avait prié pour que sa parole, la parole de Dieu, nous sanctifie. Selon Jean chapitre 17. Et dans Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, nous voyons que l'Esprit est là. Dans Actes chapitre 12, verset 5, Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église. L'Église, c'est qui? C'est nous. Quand il y a un problème, quand il y a des soucis, quand il y a des difficultés parmi nos frères et sœurs, nous sommes concernés. Nous devons les présenter devant notre Dieu. Nous devons prier pour eux. Et ces prières doivent être faites par le nom et dans le nom de Jésus. Parce que nous ne pouvons pas prier dans d'autres noms. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Alors Dieu demande seulement une action de notre part. Demander, chercher et frapper. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et non l'ouvre à celui qui frappe. Pourquoi? Parce que la manne ne tombe plus. Il n'y a plus de manne qui tombe. Donc il faut se lever tôt. Il faut étudier. Il faut être assidu au collège, au lycée, à l'université. Il faut rédiger ses devoirs. Sinon, il n'y a pas de réussite. Ici, on a puni pour les élèves, les universitaires qui font ce qu'on appelle le plagiat. Copier sur les autres. C'est puni. Donc, si vous n'étudiez pas, si vous ne faites pas vos devoirs, l'échec est derrière la porte. Donc, il y a un effort à faire. L'effort, c'est de travailler. Et il faut travailler aussi pour avoir de quoi vivre dans cette société. Travailler dur. Se lever tôt, partir, faire toute la journée, courir, monter, descendre, pour joindre les deux bouts. Et si vous ne faites rien, vous n'allez rien avoir. Il faut qu'il y ait un effort. Aujourd'hui, on ne fait plus de cadeaux. Le seul cadeau que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait. Hein? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le seul cadeau que nous avons. Je connais une petite phrase qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ce n'est pas biblique. Mais nous pouvons réconcilier ce passage avec ce que dit la Bible. Si vous ne faites rien, si vous ne déployez aucun effort, vous n'allez rien trouver. Regardez, l'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, je vais t'envoyer, le libérer. Qui a-t-il dans ta main? ?» Qui a-t-il dans tes mains? Et Moïse répond, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et en jetant cette verge par terre, ça devient un serpent. Et vous savez que Satan, il est aussi puissant. Hein? Les magiciens jettent leur verge par terre, ça devient aussi un serpent. Ce qui fait la différence, c'est que le serpent de Moïse a englouti le serpent de Pharaon. C'est ça qui fait la toute-puissance de Dieu. Satan, il peut faire beaucoup de choses, mes frères et sœurs. La seule chose qui nous met en sécurité, c'est parce que notre Dieu nous garde de façon toute-puissante. C'est parce que nous avons déjà la victoire sur le diable, le monde, la chair. Sinon, Satan nous aurait engloutis tous comme il a fait avec Moïse. Si l'on Exode chapitre 3 verset 7, Exode chapitre 4 verset 2, Exode chapitre 14 verset 16, Dieu a manifesté sa puissance dans le bâton qui coupe la mer rouge en deux et libère le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. La toute-puissance de Dieu manifeste en tout. Élisée a secouru une pauvre veuve qui devait payer de ses deux enfants comme esclave à un créancier. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Si tu n'as rien, tu ne vas avoir rien. Hein? Et la servante dit, un flacon d'huile. Hein? Un flacon d'huile. En Orient, l'huile est la base indispensable de l'alimentation comme des soins du corps. Élisée avait demandé à la femme d'empointer tous les récipients vides de ses voisins. Ça veut dire des doums, de tout ce qui peut être rempli. Et puis il ferma la porte et remplissait tous ses récipients. Quand il n'y avait plus de récipients, tout était rempli. Élisée a ouvert la porte. Et la dame a trouvé d'huile pour vendre, payer cette dette et continuer à vivre avec ses deux enfants. Dieu bénit, selon 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 17. Chacun de nous ce matin est en face d'un dilemme, d'une mer rouge. Donc il suffit de nous présenter devant Dieu. Et il nous délivrera. C'est lui qui dit dans Psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » La seule chose que Dieu demande en retour, c'est le glorifier, le remercier. Et alors, puisqu'il faut prier Dieu, comment devons-nous prier? Vous savez, quand l'Église prie, le Saint-Esprit se met en mouvement. Ça veut dire, si vous ne priez pas, tout est par terre. Pas de mouvement. Selon Actes chapitre 4, verset 31. Nous devons prier avec foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Hébreu chapitre 11, la phrase « c'est par la foi » est mentionnée 19 fois. Quand vous arrivez à la maison, vérifiez. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut prier avec foi. Nous devons prier avec humilité parce que nous ne sommes rien et nous ne méritons rien. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Regardez ce que Matthieu a dit. Matthieu chapitre 6, verset 5 et verset 7. Nous devons prier avec humilité. Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 7. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Dans le verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Dans le verset 6, il donne le contraste. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous n'avons pas besoin de donner des pressions à force de parler à Dieu pour notre délivrance. Parce qu'il sait même nos soupirs. Et notre Père sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le demandions. Comment devons-nous prier? Nous devons prier avec persévérance. Dans Matthieu 7, Jésus assure aux disciples que Dieu accueille avec joie la prière. Il les exhorte à s'approcher de Dieu continuellement avec persévérance. Selon Éphésiens 6, verset 18. Paul recommande à l'église des Colosses de persévérer dans la prière, car la prière est essentielle à la croissance spirituelle de l'église. L'église qui ne prie pas, c'est une église faible. L'église qui n'est pas intéressée à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est une église faible. La prière est aussi nécessaire à la santé spirituelle des croyants que la respiration l'est à la santé physique. Voilà pourquoi il faut persévérer dans la prière. Il faut prier continuellement. Il faut demander, il faut chercher, il faut frapper. Et alors ma grande question, combien de fois nous prions par jour? Ah, c'est la grande question. Je voudrais avoir la réponse de 1, 2, 3, 4, chaque personne ici. Combien de fois nous prions par jour? Un jour compte 24 heures. Chaque heure est égale à 60 minutes. Faisons la multiplication. Nous avons 1440 minutes par jour. Combien de minutes nous avons passé pour prier Dieu? Dans les 1440 minutes. Combien de minutes nous avons prises pour prier Dieu? La réponse est personnelle. La réponse concerne chacun de nous avec notre Dieu. Combien de temps nous avons passé? Frères et sœurs, nous sommes faibles, vulnérables, pauvres et dépourvus parce que nous ne prenons pas assez de temps pour prier notre Dieu. Nous avons du temps pour tout, sauf pour vaquer à la prière. Nous avons du temps pour télé. Nous avons du temps pour balader. Nous avons du temps pour portable. Nous avons du temps pour voir les copains, les copines. Nous avons du temps pour les fêtes. Nous avons du temps pour les anniversaires. Mais nous n'avons pas de temps pour prier. Nous n'avons pas de temps pour lire la parole de Dieu. Nous n'avons pas de temps pour venir à l'église. Ça ne nous intéresse pas. Et nous demandons à Dieu de nous bénir de toutes ces bénédictions. Mais non! Il faut prendre et passer du temps dans la prière. Et alors, vous priez, vous attendez une réponse. C'est normal, vous demandez. Il faut qu'il y ait une réponse. Fort souvent, nous attendons des réponses positives. Mais que la réponse soit positive ou négative, c'est une réponse. Je peux dire oui, de la même façon, je peux dire non. C'est une réponse. Alors, comment Dieu répond-il à nos prières? Dieu, il est souverain. Il agit selon sa volonté. Il n'est pas sous nos pressions. Et il agit en temps et en heure, car il n'est jamais en retard. Parfois, il répond immédiatement. Il l'a fait pour Moïse, qui avait demandé de pardonner le peuple. Il dit, je pardonne, hein, à l'instant même, selon Nombre chapitre 14, verset 19 et verset 20. Les brigands qui étaient avec lui, droite à gauche sur la croix, qui lui avaient demandé qu'il soit avec lui dans le paradis, dit aujourd'hui même, c'est fait. Il peut répondre immédiatement. Et parfois, il répond après un temps. Parce que son temps n'est pas notre temps. Dans la parabole du juge inique, la femme demanda insistément justice avec persistance. Selon Luc chapitre 18, verset 1 à 7. Au verset 5, après tout ce temps, il répond à la femme qui était devenue une sorte d'encombrant. Pour elle. Pour se débarrasser de la femme, il répond, il faut persévérer. Et parfois, Dieu répond d'une manière différente par rapport à ce qu'on demande. Ce matin, Pasteur Aldo avait déjà touché ce point concernant Paul. Au milieu de toutes ses souffrances, au lieu d'éliminer les multiples souffrances de Paul, Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Vous imaginez, vous êtes dans la douleur, dans la souffrance atroce, hein, vous priez Dieu pour que vous sortiez de cette souffrance, pour que cette souffrance soit soulagée. Et puis il vous dit, Jean-Pierre, attention, ma grâce te suffit. Et la douleur est là. Et pourquoi il a dit ça, Paul? Parce que ma puissance se manifeste mieux à travers les souffrances. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à verset 9. Ma grâce te suffit. Est-ce que vous connaissez la valeur de cette grâce dont nous sommes bénéficiés? Nous qui ne sommes rien absolument, Dieu nous a fait grâce. Sa miséricorde est disponible, sa bonté. Et parfois la réponse de Dieu est non. Ah oui. On ne peut pas dire oui chaque jour. Hein? Parfois, la réponse de Dieu est non. L'enfant de David avec la femme d'Uri est tombé malade. David a passé des temps à jeûner et à prier. Il a passé une nuit couché par terre pour prier. Le septième jour, l'enfant est mort. Dieu n'a pas répondu à sa prière. Dieu a dit non. Il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Pourtant, Dieu dit oui à Abraham. Il dit oui à Abraham qui lui demandait la belle Rebecca pour son fils Isaac. Il a répondu oui. Il a envoyé son serviteur trouver une belle femme. Ou son fils. Et c'était Rebecca. Selon Genèse 24, verset 12 à 27. Dieu dit oui à Anne, qui lui a demandé de lui donner un enfant mâle. S'il lui donne cet enfant, il le consacrera. Et lui donne le petit Samuel, consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. L'Éternel dit oui à Élie quand il a demandé que la pluie ne tombe pas. Et la pluie n'a pas tombé pendant 3 ans et 6 mois. Et enfin, l'Éternel dit oui à Paul et Silas en prison. Vous imaginez, quelqu'un est pris en prison, il chantait et louait, il priait le Dieu. Comment peut-il y avoir des joies dans une prison? Alors, l'Éternel les a délivrés de la prison parce qu'ils chantaient la louange de Dieu. Il les a délivrés des fers. Mes frères, pourquoi Dieu ne dit pas oui à nos prières? Hein? Pourquoi? Nous prions, nous demandons, nous cherchons, nous frappons. Pourquoi Dieu ne dit pas oui à nos recherches, à nos demandes? Dieu ne change pas. Sa réponse n'est pas favorable à nos prières parce que les conditions seulement ne sont pas réunies. Oui, les conditions ne sont pas réunies. Il y a toujours des conditions pour la bénédiction de Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 7, Jean dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est une première réponse. C'est parce que nous ne sommes pas demeurés en Dieu et sa parole ne demeure pas non plus en nous. Dans Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques dit, nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Comment nous demandons? Nous demandons pour notre passion soit satisfaite. Ah, j'ai une belle auto et puis lui, il est piéton. J'ai un beau pavillon, lui, il est en HLM. Dieu, il est humble, déjà. Hein? Notre exemple, c'est Jésus. Jésus a laissé toute sa gloire et descend vers nous. Et tout le monde est à lui, tout ce qu'il y a dans le monde est à lui. Et vous n'avez rien. Et vous pensez être quelque chose. Regardons dans Ésaïe chapitre 59. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 à verset 4, Ésaïe va plus loin. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Voilà les raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. Parce qu'il y a une coupure de la relation qu'il y a entre Dieu et nous. Et qu'est-ce qui est à la base de cette coupure? C'est le péché. Le péché qui est toujours derrière la porte. Le péché qui est à droite, qui est à gauche, qui est devant, qui est derrière. Et qui nous entoure. Donc vous imaginez si vous ne priez pas. Vous imaginez si vous n'étudiez pas, vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Vous cherchez en vain ailleurs, à tort et à travers, vous n'avez rien trouvé parce que vos conditions, nos conditions pour recevoir de Dieu la récompense de nos prières ne sont pas réunies. Frères et sœurs, ce matin, il n'est pas trop tard pour changer. Changer de vêtements, changer de comportement, changer de conversation. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose. Faut-il bien qu'il y ait un temps pour prier? Il y a un temps pour venir adorer notre Seigneur. Les vendredis soirs, les mercredis soirs, les dimanches matins, 10h, 11h, 11h30, c'est alors que les frères et sœurs rentrent à l'église. Et pendant toute une journée, nous n'avons au moins que 2 heures à offrir à notre Dieu. C'est à nous de prendre notre conscience. C'est à nous de faire un volte-face par rapport à ce comportement indésirable qui nous empêche de recevoir la bénédiction de Dieu. Il n'est pas trop tard du tout pour le faire, pour ce changement, puisque Dieu n'a pas changé. Et pourquoi vous voulez être changé? Dieu ne change pas. Dans Jacques chapitre 1er verset 17, toute grâce excellente vient d'en haut. Ça veut dire, si vous ne priez pas, comment allez-vous recevoir de grâce? Parce qu'il n'y a pas de grâce sur cette terre, tout vient d'en haut. Du Père. Et il ajoute, là où il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. Nous changeons chaque jour. Si nous persévérons dans la prière, si nous demeurons en Dieu et que sa parole demeure en nous, il est prêt à nous donner ce que nous avons demandé. Mais il faut rester fidèle à lui. C'est ce qu'il lui demande. C'est ce qu'il nous demande. Que nous soyons fidèles. Que Dieu, dans toute sa grâce, exauce nos prières et qu'il nous bénisse. Merci.